Aristote, Traité de l'âme, livre 1, chapitre 4. Sommaire. Réfutation de ces deux opinions. Premièrement, que l'âme est une harmonie. Deuxièmement, que l'âme est un nombre qui se meut lui-même. Paragraphe 1. Il existe encore sur l'âme une autre opinion qui, pour bien des gens, ne paraît pas moins certaine que toutes celles qu'on vient de rappeler, et dont nous avons déjà fait justice par la discussion dans nos études faites en commun. On dit que l'âme est une harmonie. L'harmonie, ajoute-t-on, est un mélange et un composé de contraires, et le corps se compose aussi de contraires. Paragraphe 2. Mais l'harmonie est un rapport ou une combinaison de choses mêlées ensemble, et il n'est pas possible que l'âme soit ni l'un ni l'autre. Paragraphe 3. De plus, produire le mouvement n'appartient pas à une harmonie, mais c'est à l'âme que tout le monde, pour ainsi dire, attribue cette fonction. Paragraphe 4. Ce mot d'harmonie s'appliquerait à la santé et en général aux vertus corporelles bien plutôt qu'à l'âme. C'est ce qui deviendrait de toute évidence si l'on essayait d'attribuer à quelque harmonie les modifications et les actes de l'âme. On verrait alors combien il est difficile de les mettre d'accord. Paragraphe 5. Si le mot « harmonie » a deux sens principaux qu'il ne faut pas perdre de vue, dans son sens le plus spécial, il s'applique aux grandeurs, considérées dans les choses qui ont mouvement et proportion pour exprimer la combinaison de ces grandeurs, quand elles s'harmonisent, de manière à ne pouvoir plus admettre entre elles rien d'homogène. De plus, il signifie encore la proportion de choses mélangées. Mais l'on voit que ce mot n'est applicable ici ni dans un sens ni dans l'autre. Quant à supposer que l'âme est la combinaison des parties du corps, il est très facile de réfuter cette hypothèse. Les combinaisons de ces parties sont aussi nombreuses que diverses. Or, de quels éléments peut-on supposer que l'intelligence soit la combinaison, et comment cette combinaison se fait-elle? Comment la sensibilité ou la passion serait-elle une combinaison de ce genre? Paragraphe 6. Il est également absurde de croire que l'âme soit la proportion du mélange, car le mélange des éléments qui forment la chair n'a pas le même rapport que celui qui forme les os. Il faudra donc soutenir qu'il y a autant d'âmes aussi qu'il y a de corps, s'il est vrai que tous les corps viennent d'éléments mêlés et que le rapport du mélange soit l'harmonie et l'âme. Paragraphe 7. C'est ce qu'on pourrait encore aller demander à Empédocle, qui prétend que chaque chose n'existe qu'en vertu d'un certain rapport. L'âme est-elle donc le rapport? Ou plutôt, n'est-ce pas parce qu'elle est tout autre chose qu'elle entre dans les membres du corps? L'amour, de plus, est-il la cause d'un mélange fortuit, ou bien d'un mélange soumis à un juste rapport? Est-il lui-même le rapport? Ou est-il une autre chose en dehors de ce rapport? Paragraphe 8. Telles sont les questions qu'on peut soulever ici. Mais si l'âme est autre chose que le mélange, pourquoi la vie lui est-elle ôtée en même temps qu'à la chair et aux autres parties de l'être animé? De plus, puisque chacune des parties du corps n'a pas une âme, si l'âme n'est pas le rapport du mélange, qu'est-ce donc qui est détruit quand l'âme vient à faire défaut. Nous pouvons conclure évidemment, d'après ce qui précède, que l'âme ne saurait ni être une harmonie, ni avoir un mouvement circulaire. Paragraphe 9. Mais quand on soutient que l'âme est mue par accident, comme nous l'avons dit, c'est soutenir aussi qu'elle se meut elle-même. Par exemple, qu'elle est mue avec la chose dans laquelle elle est. Cette chose étant mue aussi par l'âme. Autrement, il n'est pas possible qu'elle se meuve dans l'espace. Paragraphe 10. On pourrait douter avec plus de raison qu'elle se meuve en se fondant sur les considérations suivantes. L'âme s'attriste et se réjouit. Elle est assurée ou tremblante. Elle s'indigne. Elle sent. Elle pense. Ce sont là, ce semble, autant de mouvements. Et de là, on pourrait croire que l'âme se meut. Paragraphe 11. Mais cette condition n'est pas du tout nécessaire. En effet, s'attrister ou se réjouir ou penser, ce sont là, dit-on, certainement des mouvements s'il en fut. Chacun de ces actes est un mouvement, et c'est l'âme qui les produit. Par exemple, s'indigner, craindre, auront lieu parce que le cœur sera mu de telle façon. Et penser n'est peut-être que cela ou quelque chose d'analogue. Or, ces phénomènes se produisent par le déplacement de certains éléments mis en mouvement, ou par l'altération de certains autres. Déplacement et altération dont il convient d'expliquer ailleurs la nature et les conditions. Paragraphe 12. Mais soutenir que c'est l'âme qui s'indigne revient à peu près à dire que c'est l'âme qui tisse une toile ou qui bâtit une maison. Il vaudrait peut-être mieux dire non pas que c'est l'âme qui a pitié, qui apprend ou qui pense, mais plutôt que c'est l'homme qui fait tout cela par son âme. Encore faudrait-il comprendre ceci, non point en ce sens que le mouvement serait dans l'âme seule, mais au contraire qu'il viendrait quelquefois jusqu'à elle, comme quelquefois il en partirait. Ainsi, la sensation lui vient du dehors, mais la mémoire vient de l'âme, qui se reporte au mouvement ou aux impressions demeurées dans les organes des sens. Paragraphe 13. Quant à l'intelligence, elle semble être dans l'âme comme une sorte de substance et ne pas pouvoir être détruite. Ce qui paraîtrait devoir surtout la détruire, c'est l'alanguissement qui flétrit l'homme dans la vieillesse. Mais ici, il arrive précisément ce qui se passe pour les organes des sens. Si le vieillard avait encore la vue dans un certain état, il verrait tout aussi bien que le jeune homme. De même, la vieillesse de l'intelligence vient non pas de quelque modification de l'âme, mais de la modification du corps dans lequel elle est, comme il arrive d'ailleurs dans les ivresses et les maladies. Paragraphe 14. La pensée, la réflexion se flétrissent, parce que quelque autre chose vient se détruire à l'intérieur. Mais le principe même est impassible. Penser, aimer ou haïr ne sont pas des modifications qui soient à lui. Ce sont seulement des modifications de la chose qui le possède en tant qu'elle le possède. Aussi, cette chose étant détruite, le principe ne peut ni se souvenir ni aimer. Car aimer, ce souvenir, n'était pas de lui, c'était de cette chose commune qui a péri. Mais l'intelligence est peut-être quelque chose de plus divin, quelque chose d'impassible. Paragraphe 15. Tout ceci nous prouve donc clairement que l'âme ne saurait avoir de mouvement. Et si elle n'a pas de mouvement, il est évident qu'elle n'en a pas non plus par elle-même. Paragraphe 16. Au milieu de tant d'autres assertions, la plus déraisonnable de beaucoup, c'est de prétendre que l'âme est un ombre qui se meut lui-même. Il y a ici bien des impossibilités. Celle d'abord qui résulte de l'idée de mouvement, et de plus, les impossibilités particulières qui tiennent à ce qu'on dit que l'âme est un ombre. Comment, en effet, faut-il comprendre une unité qui se meut? Par quoi et comment est-elle mue? Elle, qui est sans parti et sans différence. Mais si elle est à la fois moteur et mobile, il faut de toute nécessité qu'elle ait des différences. Paragraphe 17. Toutefois, puisqu'on dit bien qu'une ligne qui se meut engendre la surface, que le point engendre la ligne, les mouvements des unités seront aussi des lignes, car le point est une unité qui a une position. Paragraphe 18. D'un autre côté, si d'un nombre vous enlevez un nombre ou une unité, il reste toujours un autre nombre. Mais les plantes, ainsi que beaucoup d'animaux, vivent encore après qu'elles sont divisées et paraissent avoir spécifiquement la même âme. Paragraphe 19. On pourrait croire qu'il n'y a aucune différence à dire que l'âme est formée d'unités ou de petits corpuscules. Car si les petites sphères de Démocrite deviennent des points, et que la quantité seule subsiste, il y aura dans cette quantité même une partie qui meut et une partie qui est mue, comme dans le continu. La théorie, en effet, dont on parle ici, regarde non pas à la grandeur ou à la petitesse, mais seulement à la quantité. Voilà ce qui fait qu'il faudra nécessairement qu'il y ait encore quelque chose qui mette les unités en mouvement. Mais si, dans l'animal, c'est l'âme qui est ce moteur, ce sera elle aussi dans le nombre, de telle sorte que l'âme n'est pas en même temps le moteur et la chose mue. Elle est seulement le moteur. Paragraphe 20. Mais admettons qu'elle puisse être, de façon ou d'autre, une unité. Il faut toujours qu'elle ait une certaine différence relativement aux autres unités. Or, quelle peut être la différence qu'offre un point pris comme unité, si ce n'est la position? Si donc les unités et les points qui sont dans le corps sont différents, les unités seront dans le même lieu que les points, car l'unité occupera la place du point. Et alors, qui empêchera qu'il n'y en ait aussi une infinité dans le même lieu, si une fois il y en a deux, puisque les choses dont le lien est indivisible sont elles-mêmes indivisibles? Paragraphe 21. Mais si les points qui sont dans le corps sont le nombre de l'âme, ou bien si le nombre formé des points qui sont dans le corps est l'âme, pourquoi tous les corps, sans exception, n'ont-ils pas une âme? Dans tous, il y a, ce semble, des points, et en nombre infini. Paragraphe 22. Enfin, comment est-il possible que les âmes se séparent et se délivrent des corps, puisque les lignes ne se divisent pas en points? Chapitre 5. Sommaire. Suite de la réfutation de cette théorie que l'âme est un nombre qui se meut lui-même. réfutation de cette autre théorie que l'âme est formée des éléments et qu'elle ne peut connaître les choses qu'à la condition de leur être semblable. L'âme n'est pas non plus répandue dans l'univers entier. L'âme agit-elle dans tous les cas tout entière, où chacune de ses fonctions correspond-elle à une partie spéciale? Paragraphe 1. L'erreur spéciale dont nous avons parlé a lieu, d'une part, en ce qu'on reproduit l'opinion de ceux qui supposent que l'âme est un corps à partie ténue, et d'autre part, en ce qu'on admet au sens de Démocrite que le corps est mu par l'âme. Si l'âme est dans le corps entier quand il sent, il faut nécessairement qu'il y ait deux corps dans le même lieu, l'âme étant un corps. Comme on prétend que l'âme est un nombre, il faut supposer que plusieurs points sont en un seul point, ou que tout corps a une âme, à moins qu'on ne fasse de l'âme un nombre différent, un nombre tout autre que les points qui sont dans le corps. Paragraphe 2. Il en résulte aussi que l'animal est mu par un nombre, tout comme Démocrite le faisait mouvoir, ainsi que nous l'avons dit. Car quelle différence y a-t-il à dire que ce sont de petites sphères ou de grandes unités, ou simplement que ce sont des unités qui sont en mouvement? De part et d'autre, il faut toujours nécessairement que l'animal se meuve, parce qu'elles aussi sont en mouvement. Paragraphe 3. Ainsi donc, quand on combine et qu'on identifie le mouvement et le nombre, voilà les objections qu'on soulève et beaucoup d'autres analogues. Mais il est non seulement impossible que ce soit là la définition essentielle de l'âme, j'ajoute que ce n'en est pas même l'accident. On s'en convaincra facilement si l'on essaie de définir, d'après cette assertion, les affections et les actes de l'âme. Raisonnement, sensation, plaisir, peine et toutes les autres affections du même genre. On verra, comme nous l'avons dit auparavant, qu'il n'est pas chose facile d'en tirer aucune explication. Paragraphe 4. Trois manières nous ayant été transmises de définir l'âme. D'abord, quel est l'être le plus mobile, parce qu'elle se meut elle-même, puis ensuite, quel est le corps aux parties les plus ténues, enfin, quel est le plus incorporel de tous. Nous avons parcouru toutes les difficultés à peu près et toutes les contradictions que ces opinions soulèvent. Paragraphe 5. Il ne nous reste plus qu'à voir comment on peut soutenir que l'âme est composée des éléments. En effet, on l'a dit, en vue d'expliquer comment l'âme peut sentir et connaître toute chose. Mais il y a nécessairement dans cette opinion bien des impossibilités insurmontables. Supposez en effet que le semblable connaît le semblable. C'est prétendre aussi que l'âme est en quelque sorte les choses elles-mêmes. Mais les choses ne sont pas seules. Il y a bien autre chose encore avec elles. Et par exemple, les composés qu'elles forment sont, on peut dire, en nombre infini. Paragraphe 6. Toutefois, admettons que l'âme connaisse et sente tous les principes d'où vient chaque chose à part. Mais comment connaîtra-t-elle l'ensemble d'une chose? Comment sentira-t-elle, par exemple, ce que c'est que Dieu, l'homme, la chair, les os? Et de même pour tout autre composé. Car ce n'est pas d'une façon quelconque que les éléments peuvent former chaque chose. C'est par quelque rapport, c'est par quelque combinaison, ainsi que le dit Empédocle pour les os. La terre immense, dans ses vastes creusets, reçut deux des huit parties de la splendeur liquide. Quatre furent attribuées à Vulcain, et les os devinrent blancs. Ce ne serait donc point assez que les éléments fussent dans l'âme. Il faudrait que les rapports et les combinaisons des éléments y fussent également. Pour chaque élément, le semblable connaîtra le semblable. Mais rien dans l'âme ne connaîtra ni l'os ni l'homme, à moins que ces choses ne soient aussi en elle. Or, est-il besoin de dire que cela est de toute impossibilité? Qui pourrait se demander sérieusement si dans l'âme il y a la pierre ou l'homme? Et de même pour ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. De même aussi pour tout le reste. Paragraphe 7. En outre, l'être étant pris dans plusieurs sens, puisqu'il exprime d'abord telle chose réelle, puis la quantité ou la qualité, ou telle autre des catégories selon les divisions admises, l'âme sera-t-elle ou ne sera-t-elle pas formée de toutes? Mais il ne paraît pas qu'il y ait des éléments communs à toutes ces catégories. L'âme ne sera-t-elle donc formée que de ces catégories qui appartiennent aux substances? Mais alors, comment connaîtra-t-elle chacune des autres? Dira-t-on qu'il y a pour chaque genre des éléments et des principes propres dont l'âme se compose? Alors, elle sera donc quantité, qualité, substance. Mais il est impossible que des éléments de la quantité, il résulte une substance et non point une quantité. Ainsi, voilà les difficultés et autres analogues que l'on soulève quand on prétend que l'âme est formée de tous les éléments. Paragraphe 8. Il est tout aussi absurde de dire que le semblable ne peut pas être passivement affecté par le semblable, quand on soutient que le semblable peut sentir le semblable, que le semblable peut connaître le semblable. Car, suivant eux, sentir, c'est souffrir quelque chose, c'est être mu, par exemple. Penser et connaître, c'est également souffrir. Paragraphe 9. Mais voici qui doit nous prouver encore toute la difficulté et l'embarras de soutenir, comme Empédocle, que l'on connaît les choses par les éléments corporels sous le rapport du semblable. C'est que tout ce qu'il y a de terre dans le corps des animaux, os, nerfs, poils, tout cela ne paraît pas du tout sentir, et par suite, ces parties ne sentent pas non plus les semblables. Et pourtant, il le faudrait selon cette théorie. Paragraphe 10. En outre, chaque principe aurait encore bien plus d'ignorance que de compréhension. Chaque chose connaîtra une chose, mais elle ignorera beaucoup de choses, puisqu'elle ignorera toutes les autres. De là vient que le dieu d'Empédocle est le plus déraisonnable des êtres. Il est le seul à ne pas connaître un des éléments, la discorde, tandis que tous les êtres mortels le connaissent, car chacun d'eux vient de tous les éléments. Paragraphe 11. Et puis, d'une manière générale, pourquoi tous les êtres n'ont-ils pas une âme, puisque tout être est un élément, ou bien vient d'un élément, ou de plusieurs, ou de tous? Car il faut alors qu'ils connaissent ou une chose unique, ou quelques-unes des choses, ou toutes les choses. Paragraphe 12. Mais l'on pourrait aussi demander quelle est la chose qui ramènera toutes les autres à l'unité. Les éléments, en effet, ressemblent à la matière et le plus important sera ce qui réunit tout le reste, quoique d'ailleurs ce puisse être. Or, il est impossible qu'il y ait quelque chose de supérieur à l'âme qui lui commande. Et cela est bien plus impossible encore pour l'intelligence. Il faut admettre que l'intelligence est la première en genre et la souveraine en nature, tandis que ces philosophes soutiennent que les éléments sont les premiers des êtres. Paragraphe 13. D'un autre côté, tous ces philosophes et ceux qui prétendent que l'âme est formée des éléments parce qu'elle connaît et sent les choses, et ceux qui prétendent qu'elle est le principe le plus actif du mouvement, ne parlent pas de toutes les âmes. Ainsi, tous les êtres qui sentent ne produisent pas tous le mouvement, et il y a certains animaux que nous voyons demeurer fixes en place. Pourtant, la locomotion est, à entendre nos philosophes, le seul mouvement que l'âme donne à l'animal. C'est une erreur pareille que commettent ceux qui forment l'intelligence et la sensibilité avec les éléments. Car les plantes, comme nous le voyons, vivent sans avoir ni locomotion ni sensibilité. Et beaucoup d'animaux n'ont pas l'usage de l'intelligence. Paragraphe 14. Mais même en passant sur tout cela, et en admettant que l'intelligence soit une certaine portion de l'âme, aussi bien que la sensibilité, ces théories ne s'étendraient pas encore généralement à toute âme, ni à l'âme tout entière, ni même à une seule. Paragraphe 15. C'est là aussi l'erreur que présente cette pensée dans les vers appelés orphiques. L'âme, y est-il dit, vient de l'univers entré dans les animaux quand ils respirent, apportés par les vents. Or, cela n'est certes pas possible pour les plantes, ni même pour certains animaux, puisque tous les animaux ne respirent pas. Mais c'est ce qu'ignoraient ceux qui ont avancé ces assertions hypothétiques. Paragraphe 16. S'il faut d'ailleurs composer l'âme avec les éléments, il ne faut pas du moins la composer avec tous. En effet, il suffit d'une des deux parties de l'opposition pour juger, et cette partie même est l'opposé. Ainsi, par le droit, nous connaissons et le droit lui-même et le courbe. Le juge de tous les deux, c'est la règle, tandis que le courbe ne peut être la mesure ni de lui-même ni du droit. Paragraphe 17. Quelques-uns ont cru que l'âme est mêlée dans tout l'univers, et c'est là peut-être ce qui a fait penser à Thalès que tout est plein de Dieu. Paragraphe 18. Mais cette opinion présente quelques difficultés. Pourquoi, en effet, l'âme, étant dans l'air ou dans le feu, n'y produit-elle pas d'animal, tandis qu'elle en produit dans les mixtes, bien que dans ces deux éléments, elles paraissent pourtant supérieures. Paragraphe 19. On pourrait rechercher aussi pourquoi l'âme qui est dans l'air et dans le feu est supérieure à celle qui est dans les animaux et plus immortelle. Paragraphe 20. Dans les deux cas, il y aurait erreur et contradiction. Dire, en effet, que l'air ou le feu est animal est une chose des plus déraisonnables. Et ne pas les appeler animaux, quand on admet une âme en eux, n'est pas moins absurde. Paragraphe 21. Mais il semble que ces philosophes supposent une âme dans l'air et le feu, parce que le tout doit être de même espèce que les parties. Et par là, ils sont nécessairement amenés à dire que l'âme est de même espèce dans toutes les parties. si les animaux ne deviennent animés qu'en absorbant en eux quelque chose de ce qui les enveloppe. Mais si l'air, dans quelque sens qu'on le divise, est toujours d'espèces semblables, et que l'âme soit composée de parties dissemblables, évidemment, une de ces parties existera dans l'air, et telle autre partie n'existera pas. Il faut donc nécessairement ou que ces parties soient toutes semblables, ou qu'elles ne soient pas dans chacune des parties de l'univers. Paragraphe 22. Il résulte évidemment de ce qui précède que la connaissance ne vient pas à l'âme de ce qu'elle est formée des éléments, et qu'il n'est pas exact et vrai qu'elle se meuve. Paragraphe 23. Mais, comme connaître, sentir, penser appartient à l'âme, ainsi que désirer, vouloir, et en général tous les appétits, et que c'est aussi par l'âme que la locomotion se produit dans les animaux, tout aussi bien que l'accroissement, la maturité et le dépérissement, reste à savoir si chacun de ces phénomènes se produit par l'âme tout entière. Est-ce par l'âme tout entière que nous pensons, que nous sentons, que nous agissons ou souffrons dans chacun de ces cas? Ou bien chaque phénomène différent se rapporte-t-il à des parties différentes? La vie est-elle dans une de ces parties, ou dans plusieurs, ou même dans toutes? Ou y a-t-il encore à la vie une autre cause que l'âme? Paragraphe 24. Quelques-uns prétendent que l'âme est divisible, et qu'elle pense par une partie, et qu'elle désire par une autre. Mais qui donc maintient les parties de l'âme, si, par sa nature, elle est divisée? Certes, ce n'est pas le corps, et il paraîtrait bien plutôt que c'est l'âme qui maintient le corps. Du moment qu'elle en sort, il cesse de respirer et bientôt se corrompt. Si donc il y a quelque autre chose qui la rende une, c'est ce quelque chose qui serait surtout l'âme. Puis, il faudra de nouveau rechercher si ce quelque chose est un ou s'il a plusieurs parties. S'il est un, pourquoi l'âme même n'est-elle pas une du premier coup? S'il est divisé, la raison voudra savoir encore qui unit les parties, et ainsi elle se perd dans l'infini. Paragraphe 25. Quant aux parties de l'âme, on peut encore se demander quelle force a chacune d'elles dans le corps. Si l'âme tout entière unit tout le corps, il s'ensuit aussi que chacune de ces parties unit quelque partie du corps. Mais cela ressemble à de l'impossible, et il serait malaisé même d'imaginer quelle partie l'intelligence unit et comment elle l'unit. Paragraphe 26. Nous voyons les plantes et même certains insectes vivre fort bien après qu'ils sont divisés, comme s'ils avaient une âme identique en espèce, si ce n'est identique en nombre. Chacune des parties a, dans ce cas, la sensation et la locomotion pendant quelque temps. Et si elle ne continue pas à l'avoir, nous n'en devons pas être étonnés. C'est qu'elles n'ont pas les organes nécessaires pour conserver leur nature. Néanmoins, dans chacune des parties se retrouvent toutes les parties de l'âme, identiques entre elles par l'espèce, ainsi qu'elles le sont à l'âme entière, identiques entre elles comme n'étant pas séparables, identiques à l'âme tout entière, comme si elle était divisible. Paragraphe 27. Mais le principe qui est dans les plantes paraît bien aussi une sorte d'âme, car les animaux et les plantes n'ont de commun que cette seule âme. Cette espèce d'âme peut être séparée du principe sensible, mais sans elle, aucun être ne peut avoir la sensibilité. Fin du livre premier.